Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'est un anniversaire qui tombe bien ou mal, d'ailleurs, chacun jugera. En tout cas, nous fêtons ce mois-ci les 20 ans de la loi 2004, interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Et cette semaine, l'établissement scolaire Maurice Ravel a été la scène d'une nouvelle atteinte, pourrait-on dire, à la laïcité à l'école, entraînant cette fois-ci le retrait de son directeur pour des raisons de sécurité. Bonjour Yanis Roder.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis et vous êtes le co-auteur de Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi de 2004, paru aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que cet incident, je ne sais pas trop d'ailleurs comment le qualifier, je vais vous laisser le faire vous-même, est une surprise ?
Non, ça reste un incident bien sûr, et non, ce n'est pas une surprise. Pourquoi ce n'est pas une surprise, en tout cas en ce qui me concerne? Pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est la montée progressive depuis plus de 20 ans maintenant d'une forme radicale de la pratique de l'islam, donc un islam radical qu'on appelle autrement l'islamisme, qui monte petit à petit en fait, qui gagne certains esprits dans certains quartiers, et donc qui se manifeste de manière plus importante à l'école. Alors ça reste contenu. Il ne faut pas non plus penser que les écoles sont à feu et à sang. Malheureusement, cet incident peut laisser penser, mais non, ça n'est pas le cas. Néanmoins, on voit bien qu'il y a là une poussée qui fait que certains se sentent autorisés aujourd'hui, au nom de pratiques religieuses, au nom de morale religieuse ou de croyances, eh bien, à contester les lois de la République ou même les enseignements. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, eh bien, c'est le rôle joué par les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, nous savons, emballent très rapidement les choses. Nous avons un précédent, un triste précédent, évidemment, tragique, avec l'affaire de Samuel Paty, bien sûr. Donc là, effectivement, il y a également... vous savez, si ce proviseur du lycée Maurice Ravel n'avait pas connu cette affaire au moment des réseaux sociaux, l'affaire serait restée dans l'établissement. Ce sont les réseaux sociaux qui lui ont donné cette caisse de résonance et qui font que très vite sont venues les menaces de mort. Et c'est la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on a une radicalité aussi du fait de l'anonymat notamment, des réseaux sociaux, que permettent les réseaux sociaux, mais des radicalités aussi dans les propos, dans les discours et parfois même dans les postures. Ça c'est assez nouveau, et je dirais que ce cocktail peut donner ce type d'incident.
Et oui, en fait, il y a effectivement, dans cet incident, il y a trois étapes. Il y a cette élève qui provoque une altercation parce qu'elle refuse d'ôter son voile. Il y a les réseaux sociaux et puis il y a la décision du rectorat.
Oui, la décision du rectorat. Le rectorat, me semble-t-il, je ne sais pas de quoi vous parlez, Guillaume, précisément. Si vous parlez de la mise en retrait, oui. En fait, je pense que c'était une décision personnelle. Je ne pense pas que ça vienne du rectorat. Je pense que le rectorat a acté la décision. Et d'ailleurs, je me permets de penser. Je n'ai aucune information, mais je me permets de penser que si le proviseur du lycée Ravel, qui est un proviseur qui a de la bouteille, ça fait des dizaines d'années qu'il est proviseur, juge qu'il doit se mettre en retrait, il n'a pas démissionné. Il se met en retrait, c'est que la situation est vraiment, à mon sens, inquiétante en ce qui le concerne.
C'est ça qui nous préoccupe. Vous parliez donc des pressions islamistes, sont elles qui, sur les réseaux sociaux, se sont fait entendre. J'imagine qu'il y a aussi la laïcité concernant toutes les religions, des problèmes aussi avec des élèves, je ne sais pas, qui veulent mettre une kippa ou qui veulent conserver leur kippa, ou alors des élèves qui conservent une croix nettement visible. Yanis Roder.
Je vous trouve bien optimiste, Guillaume Erner. Aujourd'hui, un élève qui mettrait une kippa à l'école publique, vous savez, je suis pas sûr qu'il la garderait longtemps. Tout simplement parce que aujourd'hui, il y a un antisémitisme parfois débridé dans certains espaces qui fait que non, un élève ne pourrait pas aujourd'hui porter une kippa sans risquer.
À ce point-là ?
Bien sûr, sans risquer une menace, une insulte, voire pire. J'ai des exemples d'élèves qu'on exfiltre, voire des familles qu'on exfiltre de certains quartiers aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour répondre à votre question. Plus précisément. En fait, en réalité, nous avons deux éléments convergents. Une partie des jeunes, aujourd'hui, comprend mal, saisit difficilement de quoi relève le principe de laïcité, et notamment de la laïcité scolaire. De ce fait, ils sont beaucoup plus, attirés par le modèle américain de tolérance nord-américaine. Du fait, je crois, aussi de leur exposition au soft power américain par les séries, par les clips, etc.
Enfin, si je vous suis de tolérance, pas forcément, par exemple, pour un judaïsme visible.
Regardez ce qui se passe sur les campus américains, Guillaume. Je crois qu'on a aussi cela aux États-Unis. On a malheureusement aussi cela aujourd'hui en France. Pour continuer mon raisonnement, donc vous avez une partie des jeunes quand même qui aujourd'hui, pour ces raisons-là, hein, vraiment de un peu comme le dit une grande chaîne de fast-food, c'est un peu venez comme vous êtes. Voilà, venez comme vous êtes. On n'a pas à vous dire comment vous habiller ou pas vous habiller. Et puis qui convergent finalement dans le même sens. Une minorité, et je dis bien une minorité, hein, d'élèves qui sont très revendicatifs d'un point de vue religieux, voire politico-religieux. Et en fait, les deux se rejoignent sur l'idée qu'on doit pouvoir faire ce que l'on veut et on doit pouvoir afficher ce que l'on veut. Donc, en réalité, c'est pas tant une question, pour une majorité de ces jeunes, c'est pas tant une question religieuse qu'une question de tolérance et de ce qu'ils appellent respect vis-à-vis des croyances ou vis-à-vis des identités. Et souvent, ils confondent identité et croyance. Ils font de l'identité, ou ils font de la croyance une partie intégrante de l'identité. Et de l'autre côté, donc, cette minorité qui pousse, qui a un autre agenda, un agenda politico-politique, des politico-religieux, qui essaye de s'immiscer dans ces failles ouvertes.
Mais alors, justement, Yannis Roder, est-ce que, puisque l'on évoque ces 20 ans de la loi de 2004, à laquelle vous avez consacré un livre « Préserver la laïcité » aux éditions de l'Observatoire, est-ce que, justement, aujourd'hui, cette loi n'est pas caduque, parce que ça n'est plus possible de faire observer la laïcité, la société a changé, on peut le déplorer, mais il faut le constater.
Alors, je vais vous répondre, mais d'abord j'aimerais rappeler que cette loi de 2004, elle a réellement apaisé les choses après 2004. D'ailleurs, on a cru qu'elle allait déclencher, comme l'interdiction des abayas d'ailleurs, on a cru qu'elle allait déclencher des soubresauts, peut-être même voire des protestations. Il n'en a rien été, de même qu'il n'en a rien été pour les abayas, en septembre, à la rentrée de septembre 2023. Et donc, elle a apaisé les choses. Ce qui est vrai, c'est que depuis maintenant quelques années, on voit monter des contestations de ce que dit l'école de la République. On a quelques exemples récents qui sont sortis dans la presse. Je pense à ce collège des Yvelines à Issou, où une professeure a montré un tableau de la Renaissance. Des élèves se sont dit choqués par du fait de ce qu'ils ont jugé impudique, soutenu par leurs parents.
On en reparlera dans une dizaine de minutes en compagnie d'un professeur qui a évoqué cela, Grégory Le Floch.
Et puis monter aussi des... En fait, on assiste, je crois, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des chercheurs qui travaillent sur le terrain, je pense notamment à Bernard Rougier, spécialiste de l'islamisme, qui observe un déplacement des normes, en fait. C'est-à-dire que ce qui était jugé radical dans la pratique il y a 20 ans est jugé de plus en plus normal aujourd'hui. Donc on a un déplacement des normes dans les pratiques religieuses musulmanes, sans que les gens adhèrent nécessairement à l'idéologie islamiste, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais les normes se déplacent. Et de ce fait, on a aujourd'hui une contestation qui est plus importante de ce que dit la République à l'école et de ce qu'elle dit aussi de la manière dont on peut venir à l'école. Mais je ne crois pas, moi, que cette loi soit caduque. Je crois qu'il faut expliquer, il faut davantage l'expliquer, davantage faire de pédagogie. Et vous savez, on a pendant très longtemps considéré que la laïcité était un acquis et on ne l'a plus expliqué. Et non seulement on ne l'a plus expliqué aux élèves, mais on l'a plus expliqué aux jeunes profs. Je me permets de dire que quand je suis rentré dans le métier, il y a de cela maintenant très longtemps, on ne m'a jamais dit que j'étais fonctionnaire, on ne m'a jamais expliqué ce que c'était la laïcité. Alors moi je suis prof d'histoire géo, je me suis un peu renseigné quand même, mais si vous ne le faites pas, si vous ne le faisiez pas vous-même, Guillaume, personne ne vous expliquait pourquoi finalement vous étiez un fonctionnaire. Est-ce que cela signifiait en termes de neutralité, mais aussi en termes de posture et de ce que vous allez enseigner. Donc là, il y a un manque, si vous voulez, qui s'est fait et qui se voit aujourd'hui dans les salles des professeurs, puisque il y a eu la nécessité, c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a initié après l'assassinat de Samuel Paty, la nécessité de lancer un grand plan national de formation de tous les personnels, parce qu'on a senti la fragilité des personnels sur cette question de la laïcité. Donc je crois que non, la loi n'est pas caduque. Au contraire, c'est une loi qui protège des pressions. Et je crois que c'est une loi, comme le disait Jean-Pierre Chevènement dans un texte, dans un article, une tribune qu'il avait faite au Monde en novembre de 89, au moment de l'affaire de Creil. Il disait qu'il ne voulait pas, lui, qu'un signe tel que le foulard, à l'époque on appelait ça le foulard, soit un rappel à l'ordre permanent. Voilà. Et ça, c'est très intéressant.
Mais alors, Pourtant, il y a des statistiques. Alors, on ne va pas accabler les auditeurs de chiffres, mais les statistiques témoignent d'un certain nombre d'incidents liés donc à ce non-respect de la laïcité. Et on entend même dire que les chiffres sont peut-être sous-estimés.
Alors, les chiffres dont vous parlez, Guillaume, sont les chiffres qui émanent du ministère. Et qui donc sont centralisés par un bureau au ministère, qui centralise les chiffres qui arrivent des équipes, ce qu'on appelle équipes mises en place par Jean-Michel Blanquer, les équipes académiques valeurs de la République. Voilà, puisque chaque établissement peut signaler les incidents liés notamment à la laïcité, mais pas seulement, hein, et qui sont remontés et qui sont centralisés. Ce ne sont pas des statistiques, parce que c'est du déclaratif. C'est-à-dire, soit vous déclarez, soit vous déclarez pas. Je vais vous faire une confidence. C'est difficile de dire qu'on fait une confidence sur une radio écoutée comme la vôtre. Mais il m'arrive, moi, d'avoir en classe des propos qui relèveraient, en réalité, non pas de contestation, mais de mise en cause du principe de laïcité ou de certains enseignements. Je vous avoue que je n'en fais pas toujours état. C'est-à-dire que j'ai un peu de bouteille, je règle les choses en classe, j'explique, je fais de la pédagogie, et donc ce sont des choses qui n'apparaissent pas. En revanche, ce que l'on peut penser, c'est que les chiffres vont en s'aggravant, en augmentant, et donc ils montrent des tendances. Et ça, c'est intéressant, les tendances sont plutôt à l'aggravation.
Yannis Roder, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous avez notamment publié « Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi de 2004 ». C'est un livre paru aux éditions de l'Observatoire. Vous serez rejoint par Lucie Pithiot, qui est proviseure d'une cité scolaire à Paris, la cité scolaire François Villon, et un autre professeur de lettres, celui-là, Grégory Le Floch. On évoquera justement les différents incidents auxquels l'école doit faire face désormais.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
À l'école et même au collège et au lycée, ce studio ressemble désormais à une véritable salle de classe. Nous sommes avec Yannis Roder, enseignant qui a notamment publié « Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi de 2004 » paru en 2024 aux éditions de l'Observatoire. Et puis, nous accueillons un autre enseignant, professeur de lettres dans un collège, Grégory Le Floch. Bonjour. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi vous avez pris la parole sur un certain nombre de thèmes que vos élèves jugeaient indécents. Pourquoi Madame Bovary, par exemple, était un ouvrage qu'ils refusaient d'étudier. Et puis, nous sommes en compagnie de mon camarade Hakim Kasmi, qui suit les affaires d'éducation pour la rédaction de France Culture. Et enfin, Lucie Pithiot, bonjour. Vous êtes proviseur de la cité scolaire François Villon à Paris. Lucie Pithiot, indépendamment de la question donc des atteintes à la laïcité, encore que il y a aujourd'hui des menaces dans certains établissements scolaires. On a évoqué hier le fait que l'ENT, autrement dit l'application informatique qui permet de servir de lien entre les élèves et leur famille, avait été hackée, pleine de messages extrêmement violents avec des menaces d'attentats. Hier, des lycées à Paris ont été évacués suite à des alertes à la bombe. Est-ce que l'on prend ces alertes au sérieux? Est-ce qu'il y a des mesures particulières aujourd'hui?
Alors, je crois que l'école a beaucoup progressé depuis la période des attentats en 2015. On s'est doté très progressivement, enfin très vite après ces attentats, et puis en diffusant de la formation, d'outils assez efficaces et de réflexes, notamment de collaboration très étroite avec la police notamment. Donc tous les établissements savent quelle est la procédure à suivre, dans quelle mesure ils doivent évidemment prévenir la police, attendre un certain nombre d'instructions, s'y plier, etc. Donc tout cela est malheureusement désormais et heureusement aussi rodé. Ce qui alerte, c'est le fait que l'école soit au centre de ces tentatives de déstabilisation, et en même temps, que voulez-vous, avec 12 millions d'élèves qui ont tous des parents, il est évident qu'en touchant au cœur, en touchant à l'école, on touche à l'essentiel de la société française, oui, bien sûr.
Mais est-ce que, là aussi, lorsqu'il y a ce type d'alerte, j'imagine que vous êtes tiraillé entre, d'un côté, l'idée que c'est peut-être une nouvelle manière de semer le chaos dans les établissements scolaires sans porter véritablement atteinte à ces établissements, ou bien une menace sérieuse. Comment fait-on pour jauger les deux?
Et c'est pas nous, ce n'est pas à la proviseur que je suis de jauger la menace. Quoi qu'il arrive, on met en œuvre toute une procédure qui a pour seul objectif de garantir la sécurité des établissements scolaires. Les enquêtes suivent. Je crois que très récemment, en Alsace, c'est un territoire que je connais pour y avoir travaillé pendant 6 ans, ils ont retrouvé un auteur de messages de ce type-là et ont fait confiance à la justice pour le punir à la hauteur de ce que cela signifie. On ne peut pas tolérer qu'on menace ainsi des établissements scolaires.
Grégory Le Floch, et je vous ai invité parce que vous êtes l'une des voix qui a alerté l'opinion publique sur, j'allais dire, des atteintes à la laïcité. C'est plus compliqué que cela, mais en tout cas des atteintes à la norme commune, puisque jusqu'ici je pensais que Madame Bovary était un roman qu'on pouvait faire étudier à des élèves en classe, même si c'est difficile, j'imagine, de leur faire étudier Madame Bovary. Et vous avez pris la parole dans la presse pour dire qu'aujourd'hui, certains élèves refusent d'étudier Madame Bovary. Expliquez-nous pourquoi.
Le point de départ, c'est une collègue de lettres dans un établissement des Yvelines, un collège, qui montre un tableau du XVIIe siècle représentant Actéon surprenant Diane et ses nymphes au bain. On se dit, rien d'extraordinaire, une prof de lettres fait son travail, elle montre une peinture. Plusieurs élèves ont fermé les yeux, ont tendu les mains pour ne pas le voir, et elle a été traitée d'islamophobe parce qu'elle montrait des femmes nues. Et à partir de là, je me suis dit, mais il va falloir attendre combien d'incidents de ce genre pour que quelque chose se passe. Parce que c'est vrai que le débat de laïcité sur les vêtements m'importait pas énormément en tant que prof de lettres. Mais en tant que prof de lettres, ce que je vois, ce n'est pas un problème d'abaya ou de jeune fille voilée, c'est un problème de refus culturel, un problème de « je refuse de lire tel texte, je refuse d'étudier un personnage. »
Alors par exemple, Madame Bovary, qu'est-ce qu'elle a qui pourrait rendre ce roman, non pas la personne, mais d'ailleurs ce roman impossible à étudier ?
Un adultère, elle a des amants. Impossible. Impossible. Et là, on est dans le cas... Et dans ma tribune, je cite des cas vraiment très différents, de la sixième à la terminale. Les réactions ne sont pas les mêmes, parce qu'elles ne se justifient pas de la même façon. En terminale, c'est un discours très construit. Et quand je propose des dissertations sur Madame Bovary, je recevais des réponses disant que Madame Bovary devait être condamnée. Et surtout, à l'époque, c'était au programme du baccalauréat. Et on devait étudier le texte dans son contexte, c'est-à-dire avec le procès.
C'est embêtant parce qu'un roman au XIXe siècle qui ne contienne pas d'adultère, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait être.
Ah oui, non, mais c'est-à-dire que je me suis dit, tout texte va être problématique. Le Lys dans la vallée, même si c'est des fleurs, ce sera problématique parce que c'est sexuel, c'est bouquet de fleurs. Et ce qui gêne, c'est le corps. Comment étudier des personnages désincarnés? Et des quatrièmes, par exemple, quand j'étudie une scène de baiser de Roméo et Juliette, un quatrième m'interpelle extrêmement violemment, mais dès la première seconde, c'est épidermique. Pour les petites classes, ça va être un réflexe. C'est tellement intégré que c'est un réflexe. Je vais le dire à mon père, c'est du porno. Parce que Roméo et Juliette s'embrassaient.
Bon, mais alors, Grégory Le Floch, c'est quand même très étonnant, parce que ces enfants sont exposés sur les réseaux sociaux à des représentations qui doivent être, comment dirais-je, d'une crudité supérieure à Madame Bovary.
Et je pense que c'est toute l'hypocrisie de certains élèves et d'un certain monde où on est exposé à une crudité immense et on refuse officiellement en groupe d'étudier la représentation d'une femme nue.
Lucie Pithiot, vous qui êtes proviseur, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je rejoins mon camarade sur le fait que, d'une certaine façon, la loi de 2004 est extrêmement efficace sur la question du vêtement. On s'attendait à une offensive à la rentrée de septembre 2022 sur la baïa, elle n'a pas eu lieu. On était prêt effectivement à se mobiliser par rapport à ce phénomène. Il n'a pas été aussi massif que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et une fois de plus, les quelques jeunes filles qui ont souhaité peut-être tenter une entrée dans un établissement scolaire ont pu être reçus, comme on le fait à chaque fois, et le dialogue a suffi à faire baisser la pression. En revanche, on sent que le débat se déplace à l'intérieur de la classe, avec des manifestations effectivement de ce type-là, des dogmatismes. Alors je mettrais tous les dogmatismes en fait dans cette ligne. Notre société se polarise, l'école en est le reflet, tous les dogmatismes s'expriment à l'intérieur des établissements scolaires et c'est notre rôle.
Y compris dans le vôtre, est-ce que vous avez des élèves qui refusent d'étudier tel ou tel?
Alors. Je crois que tout à l'heure Yanis disait que tout cela est de l'ordre du déclaratif. Je crois que la confiance qui est la nôtre dans l'équipe de l'établissement ferait que si un phénomène de ce type-là a été massif, nous en aurions mention. J'ai en tête l'année dernière tout un groupe d'élèves qui tout d'un coup refusait de se prêter aux instructions du professeur d'éducation musicale. Le fait est qu'on a pris le problème vraiment à la racine et on a contacté chacun des parents très très vite dans la journée, hein, dès que le phénomène a...
Pourquoi la musique? Qu'est-ce qu'elle a la musique?
Parce que les élèves se sont mis à réciter, si je puis dire, comme un seul homme, ce qu'on leur serinait sur TikTok. Et on va pas se voiler la face, si je puis dire. TikTok est devenu le terrain favori d'une forme d'embrigadement dont on peut soupçonner quel est l'outil de groupes intégristes et de groupes salafistes. La musique est
refusant.
La musique est impure. On n'est pas censé. Mais en le prenant à la racine, pour conclure, effectivement, chacune des familles se disait horrifiée de ce qu'avaient fait les enfants. C'est-à-dire que ça n'était pas le discours de la famille, c'était vraiment ce qu'ils disaient sur les réseaux sociaux.
Hakim Kasmi.
Alors, on le voit dans ce que nous disent nos invités, ça illustre parfaitement en fait les chiffres qu'on a eu par exemple en février sur les atteintes à la laïcité, puisque au-delà des tenues religieuses qui arrivent en troisième position, ce que l'on voit, c'est que ce qui arrive aujourd'hui en tête, c'est le prosélytisme, mais aussi la contestation de l'enseignement et tous les enseignements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus juste dans l'histoire-géographie ou les sciences naturelles, mais aussi, comme vous le disiez, dans la musique, mais même le français, par exemple. Est-ce que cela ne pose pas aussi la question de ce qu'on appelle le conflit de loyauté, c'est-à-dire entre ce qu'entendent et ce que vivent les enfants à la maison et ensuite ce qu'ils doivent appliquer, à savoir la loi de la République lorsqu'ils sont à l'école.
Grégory Le Floch.
C'est extrêmement douloureux pour les élèves. Je le vois physiquement. Pour certains élèves, il y a un grand écart qui se crée en eux entre la loyauté aux parents et ce qu'ils entendent à l'école. Qu'est-ce que je dois suivre? Et ce grand écart leur fait du mal. Dès les petites classes.
Yanis Roder.
Oui, bien sûr qu'il y a un conflit de loyauté, mais je crois que ce conflit de loyauté, il existe parce que je pense, je ne sais pas si Lucie Pitiot sera d'accord avec moi, mais je pense que l'institution manque d'un discours en direction des parents sur ce qu'est l'école de la République. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement à l'école de la République pour apprendre les lettres, l'histoire-géographie, les mathématiques, etc. On va aussi à l'école de la République pour se former en tant que futur citoyen actif dans notre société, et donc pour reprendre le mot de Ferdinand Buisson, pour faire des républicains. Voilà. Et si on ne dit pas ça clairement aux parents, effectivement, le choc va être d'autant plus grand. Et c'est pour cela aussi, je pense, que certains parents se pensent autorisés à soutenir leurs enfants dans les contestations dont vous témoignez, Grégory Le Floch, parce que je crois qu'on ne leur a jamais expliqué ce qu'est l'école de la République et quelle est la mission de l'école de la République.
Lucie Pitiot, vous qui êtes proviseur.
Je suis d'autant plus d'accord effectivement avec ce discours sur l'utilité d'en appeler aux familles et de leur expliquer ce qu'est l'école de la République que chaque année, on se livre à un exercice, c'est-à-dire que c'est une cité scolaire, hein, cet établissement que je dirige. On accueille les parents et les élèves de 6e à l'occasion du premier jour de la rentrée sous les arbres de la cour d'honneur. Ça, c'est un très bon moment solennel. Et cette année, évidemment, puisque toute l'actualité tournait autour de cette histoire de d'abaya et que je soupçonnais que un malentendu, voire un malaise, pouvait naître chez ces familles essentiellement issues des diasporas d'Afrique noire, il fallait qu'on aille sur ce terrain-là. Eh bien, je leur ai fait tout un discours sur ce qu'est l'école de la République, qui accueille tout le monde sans discrimination. Et que c'était ça le sens de la laïcité, c'était essentiellement une garantie. Et c'est ce que dit et redit la loi de 2004. C'est la garantie d'une liberté de penser, d'une liberté de croire ou de ne pas croire. Et à la fin de ce discours, qui a duré 3 minutes, pour leur dire, vos enfants sont les bienvenus dans cet établissement et vous êtes les bienvenus dans cet établissement, justement grâce au principe de laïcité, j'ai été applaudie. Ce qui prouve tout de même que non seulement c'est nécessaire, mais ça marche.
Grégory Le Floch est... Figurez-vous que nous aussi, Hakim et moi, on a été lycéens, collégiens, et à l'époque, on voulait embêter nos profs, peut-être pas Hakim, hein. Hakim, je ne sais pas si vous embêtiez vos enseignants, moi, ça m'arrivait de le faire parfois, et alors évidemment, on allait à l'encontre de ce qu'ils disaient, et donc aujourd'hui, peut-être que la meilleure manière d'embêter ces enseignants, c'est de leur dire, par exemple, qu'on refuse de regarder un tableau parce que celui-ci comporte des scènes de nudité.
J'y ai pensé. J'ai tenté d'expliquer le phénomène par ce refus d'autorité, mais ça tient pas. Ça tient pas parce que c'est un phénomène très large, un phénomène communautaire, un phénomène greffé sur une religion, dans un contexte international. C'est une crise d'ado n'a pas cette ampleur. Et on a des élèves en crise d'ado qui sont pénibles, etc. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois qu'il faut bien expliquer... Je crois qu'il y a un malentendu chez les élèves. Quand on leur propose d'étudier quelque chose, d'étudier un texte surréaliste, je ne leur demande pas d'adhérer, je n'ai pas la parole d'un prêtre, je leur demande d'étudier un fait. Et je crois que... À mon époque et à notre époque, quand on étudiait quelque chose, on nous donnait la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Et je crois que les élèves ont oublié qu'ils avaient droit de ne pas aimer. Ils n'ont pas l'obligation d'adhérer à tel personnage.
Hakim Kasmi.
Alors selon vous, je m'adresse à tous nos invités, mais est-ce que la question de la mixité scolaire n'est-elle aussi pas importante pour avoir, entre guillemets, plus de tolérance et mieux respecter, entre guillemets, la laïcité? Parce qu'on le voit aujourd'hui dans certains quartiers, il peut y avoir aussi un effet de communautarisme. Voilà, est-ce que aussi en mélangeant les élèves les uns avec les autres, on pourrait réduire les atteintes à la laïcité?
Yannis Roder.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est une vraie question qui va se poser et qui se pose déjà, hein, et pour notre avenir commun. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la question de la mixité sociale. C'est-à-dire, effectivement, vous avez votre établissement, mon collège, dans un quartier particulier et qui fonctionne avec un écosystème local, et qui, ce collège fait un peu interface, si vous voulez, entre cet écosystème local et la République. Mais effectivement, mes élèves naviguent ensemble au quotidien, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas cette confrontation apaisée, hein, entre des visions du monde qui seraient différentes, puisque on sait très bien aujourd'hui qu'il y a des quartiers qui sont en voie de ghettoisation, voire qui sont ghettoisés, et où tout le monde... finalement pense la même chose, vit la même chose, croit la même chose. Je schématise à dessein, bien sûr, mais en gros, c'est cela. Si on a une mixité sociale plus importante, nous aurons une mixité culturelle plus importante. Et donc, la possibilité de confronter de manière apaisée des visions du monde qui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Lucie Pitiot.
Oui, si je peux rajouter une pierre à cet édifice, c'est un constat que l'on fait. Effectivement, il y a une tentation du séparatisme à chaque fois que les personnes se regroupent avec les mêmes éléments de profil, hein, avec les mêmes pensées, avec les mêmes origines, etc. C'est valable pour les séparatismes qui sont volontaires. Dans le centre de Paris, on en a quelques exemples. Et puis, c'est valable aussi pour les séparatismes, enfin, les ségrégations qui sont subies par les populations aux mêmes endroits. Et par rapport à cela, juste une solution. On s'est dit, dans mon établissement, que pour contourner le problème de l'absence de mixité, de l'absence de confrontation à des gens qui pensent autrement, nous allions leur amener à l'intérieur de l'établissement le pluralisme au moins des idées, à défaut d'avoir une mixité des publics. Et donc nous avons introduit le principe de leur amener la possibilité de rencontrer des philosophes. Voilà. Donc nous travaillons avec l'association qui s'appelle Tête à Texte, qui a été fondée par Raphaël Enthoven et Marilyn Maezzo. Et Marilyn Maezzo, philosophe, camusienne, nous fait l'honneur de venir très régulièrement dans l'établissement pour venir animer des ateliers de philosophie à hauteur d'enfants pour des élèves des écoles primaires et des collèges. Et c'est d'une façon de leur amener ce pluralisme qu'ils n'ont pas dans l'occasion, auquel ils n'ont pas l'occasion d'accéder dans leur quartier.
Mais alors, Grégory Le Floch, du coup, après avoir connu les différents épisodes qu'on a évoqués, tel livre qui ne peut pas être étudié, tel tableau qui ne peut pas être regardé, et comment faites-vous concrètement pour faire étudier des œuvres? Quelles œuvres peut-on réussir à faire étudier à ces élèves?
Je sais qu'il y a énormément de profs qui s'autocensurent, qu'ils vont choisir de dévier. Et moi, j'ai un tel goût pour certains textes que c'est pas possible. Ce qui fait que j'ai... Zola, je sais, pose énormément de problèmes parce que Zola a mis au cœur de ses textes le portrait féminin dans son corps et dans sa nudité. Et Zola, on est systématiquement confronté à quelque chose, à des réticences. Comment je fais ? Rappeler systématiquement que l'école est exotique. C'est-à-dire que je propose un savoir qui doit les extraire de leur monde. Et ça, je crois que c'est fondamental.
Yannis Roeder.
C'est là tout le rôle de l'école de la République, en réalité. L'école de la République prend les enfants comme ils sont, mais en leur proposant la possibilité de s'émanciper de ce qui les détermine en premier lieu. Et le travail que fait Grégory Le Floch et que font tous les enseignants, c'est celui-là. C'est-à-dire, voilà, nous allons vous faire découvrir ce que vous n'auriez jamais découvert chez vous. On va vous ouvrir. Et Grégory l'a dit, et c'est très important, on ne vous demande pas l'adhésion. Mais on vous demande de respecter ce que dit l'école. Et vous en ferez, vous, ce que vous voulez, en vous émancipant ou pas.
Hakim Kasmi.
Alors, est-ce que cela ne pose pas aussi la question de la formation? Parce que ce soit pour l'enseignant qui est seul face à ses élèves, ou même pour les chefs d'établissement qui sont aussi en première ligne, car lorsqu'il y a des atteintes à la laïcité, ce sont eux qui vont recevoir les parents, et dans le pire des cas, devoir discuter et se réunir dans les rectorats, notamment dans des réunions de ce qu'on appelle des rappels à la loi. Est-ce que la question de la formation des enseignants ne doit pas se poser, dans la mesure où d'ailleurs prochainement, Emmanuel Macron doit présenter avec Nicole Belloubet la réforme de la formation des enseignants, et en particulier pour les jeunes professeurs qui débutent?
Du CPTU.
Moi, je pense que c'est fondamental. Yannis le disait tout à l'heure. Yannis Roeder disait que il y avait eu quelque chose de tacite finalement dans notre formation d'enseignant au début de notre carrière. J'étais moi-même enseignante de lettres. Et effectivement, on ne m'a pas expliqué ce que c'était qu'être fonctionnaire et défendre la laïcité. Je crois qu'on a là aussi, comme sur le sujet de la sécurité, énormément progressé. Il y a tout de même une diffusion dans les instituts qui forment les professeurs, dans les formations continuées à destination de ces mêmes professeurs et des personnels de vie scolaire, des progrès qui ont été réalisés. Il faut qu'on continue sur la massification de cette diffusion de ces non seulement de l'information, hein, c'est un apport théorique, mais c'est aussi une façon, comment on peut réagir à l'irruption du fait religieux, à l'irruption de la contestation à l'intérieur de son cours. Pas plus tard que le mois prochain, j'organise une nouvelle formation de ce type-là avec l'équipe académique Valeurs de la République dans mon établissement pour la quarantaine de professeurs qui n'étaient pas présents il y a 3 ans. C'est le problème du turnover. La première fois que je l'ai mené. Et puis, à destination des personnels enseignants, j'ai participé moi-même d'ailleurs à l'hiver dernier à une formation de ce type-là, en leur montrant comment concrètement on essayait d'induire à l'intérieur des établissements scolaires une culture des valeurs de la République, parce que ça va au-delà d'une formation théorique, il faut savoir comment la faire vivre.
Parce que pour rappel, aujourd'hui 500 000 professeurs ont été formés, le ministère espère en former 1 million, en comptant aussi les autres fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale d'ici 5 ans, ça sera long.
Grégory Le Floch, au moins dans votre malheur qui est aussi le nôtre d'ailleurs, et la littérature a encore du poids, au moins pour ces élèves qui refusent de lire, ce qui veut dire que Zola et Flaubert conservent encore toute leur puissance.
Je m'en tire comme ça, psychologiquement. Je me dis que ces réticences peuvent revivifier des textes qui, pour nous, nous paraissent anodins.
Mais en tout cas, du point de vue où ils le considèrent, oui, ils sont anodins.
On comprend pourquoi Zola a été couvert d'injures à son époque. Ça permet de comprendre.
Un mot de conclusion, Yannis Roeder.
Un mot de conclusion, merci Guillaume Herner. Moi, je crois que l'école a les moyens de répondre au défi qui lui est posé, mais elle ne doit pas répondre seule. Je pense que c'est une prise de conscience de l'ensemble de la société, de l'ensemble, bien sûr, de l'État, de toutes les autorités, mais également de chacun d'entre nous pour soutenir, que chacun soutienne son école. Voilà.
Lucie Pithiaud.
Moi, je vais juste dire un mot à propos de mon collègue du lycée Ravel et qui conclut d'une certaine façon ce qu'on vient de dire. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'abdication. À un moment donné, quand quelqu'un dans l'équipe est blessé, qu'il se mette en retrait et qu'on le laisse sur le banc pendant quelques temps, c'est logique. Mais pour autant, le lycée est toujours debout et la loi de 2004 s'y applique toujours. Et je crois qu'on peut compter sur les chefs d'établissement pour continuer à avoir leur petit syndrome de Superman.
Merci Lucie Pithiaud, je rappelle que vous êtes proviseur de la cité scolaire François Villon à Paris. Merci Grégory Le Floch, écrivain et professeur de lettres dans un collège. Et merci Yanis Roder, on peut lire de vous « Préserver la laïcité, les 20 ans de la loi de 2004 » aux éditions de l'Observatoire et la Jeunesse française, « L'école et la République » chez le même éditeur.